Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, ravi d'être avec vous, hein, comme tous les lundis, 19h, 20h30. Alors on vous avait gâté la semaine dernière avec la présence de l'arbitre de Ligue 1, Bruno Dorien. Ben, on va encore vous gâter cette semaine avec nos lots d'intervenants et donc d'invités. On va commencer avec l'historien et écrivain sur le sport, Pierre Lagrue. Pierre, bonsoir. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Ça va, pleine forme ?
Pleine forme, ouais. Il n'y a pas de soucis.
On a vécu un bon week-end de sport, hein ?
Oui, oui.
On a du handballeur, oui.
Le handball, c'est assez magique, parce que s'il y a des rebondissements, on a l'impression que tout est fini, tout est perdu.
Ouais.
Et à la fin, c'est pratiquement le seul sport où ça peut se retourner comme ça.
Voilà, donc effectivement, on en parlera. On a une deuxième invitée aussi, hein, c'est Laura Blumos de l'association Respect Zone. Bonsoir Laura.
Bonsoir.
Ça va bien ?
Ça va, merci. Hein ? Oui.
Alors, vous allez nous dire pourquoi vous êtes là. On a eu l'occasion de se rencontrer fin novembre, donc au prix du Fair Play. Vous avez c'est un thème et un sujet intéressant. Donc, c'est pour ça qu'on vous a invité. Vous aurez une de vos collègues qui sera aussi au téléphone tout à l'heure avec vous. Hein.
Exactement.
Oui, alors parlez-nous un peu de votre association.
Eh bien, du coup, Respect Zone, c'est une association qui lutte contre les violences et la haine en ligne.
Oui.
Donc, on a dont le cyberharcèlement. Donc, on a différentes actions. Donc, ça va être le partage de connaissances avec des enquêtes, partage de savoir et la transmission. On va avoir du coup tout le volet sensibilisation, intervention.
Oui.
Dans les écoles, dans les centres sportifs. Mmh. On a aussi une action juridique avec de l'orientation de victimes, mais aussi du plaidoyer pour faire porter cette parole auprès des pouvoirs publics.
D'accord, donc le sport, naturellement, nous, c'est ce qui va nous intéresser, n'est pas épargné, hein, on aura l'occasion d'en reparler, savoir quels sont les différents fléaux qui touchent le sport en matière de cyberharcèlement, et puis qu'est-ce qu'on peut faire contre ce fléau. Allez, je vais saluer Laura qui nous a concocté un journal des sports. Il est comme ça vu l'actualité sportive de ce week-end. Ça va Laura ?
Oui, ça va, super.
Bon,
bonsoir.
Tu t'es régalé ? Laurent, le tennis ?
Ouais, super, je me suis régalé.
Bon, ton petit chouchou malheureusement éliminé ?
Oui.
Hein ? Voilà, pour le tennis. Hein, voilà. Et puis je vais saluer aussi Vanessa, une fidèle, une habituée. Comment ça va, Vanessa ?
Bah, très bien, avec la victoire de nos Bleus hier.
Ah oui, bah oui. Hein, hein. Elles étaient venues, Vanessa, elle était venue, c'était les filles du hand qui étaient championnes du monde, et elle revient, les filles du hand, ce sont les gars qui sont champions d'Europe. Voilà.
Ouais. Bah, faut peut-être qu'elles viennent pendant les Jeux.
Elle va venir, c'est ce qu'elle va faire. Voilà, très bien. Alors, Pierre, moi, ce qui m'intéresse d'abord, c'est comment le sport entre dans votre vie ?
Alors c'est... C'est une histoire de passion et de hasard.
Oui.
De palais de Vianney. Bon, je me dis historien du sport, c'est comme ça qu'on me qualifie.
Mmh.
Et alors, il n'y a pas de diplôme d'historien du sport. C'est
non.
De vrai. Mais en fait, c'est la passion qui remonte à l'enfance. Et puis, après, c'est de vouloir analyser les choses. Aller un petit peu au-delà du fait lui-même.
Ouais.
C'est-à-dire que tu vas recommencer par le début.
Oui, alors, qu'est-ce qui fait que quand on est môme, on s'intéresse au sport ? Il y a des champions mythiques, il y a des exploits mythiques. C'est là que ça commence. Ça
alors,
a commencé
début,
par quoi ?
Au tout début, il y a le contexte familial, parce que mon père était sportif et regardait le sport. Enfin, moi, je regardais le sport à la télé. Il y a les souvenirs d'enfance qui sont vraiment très vieux. C'était sur la plage avec mes grands-parents à étudier le Tour de France.
Ah oui.
Et puis à écouter le Tour de France à la radio, là, c'est magique.
Oui, parce qu'il faut le dire, à l'époque, il n'y avait pas toutes les images qu'il y avait sur le sport.
De toute façon, c'était la radio, c'est encore plus magique qu'à la radio, parce qu'on s'imagine des choses quand on a 7 ans.
On s'imagine les champions,
Quand on a 7 ans, le duel Anquetil-Puy d'Or, on a l'impression qu'il va y avoir des ours sur le Puy de Dôme. Enfin, c'est toute une magie. Et puis, alors il y a le coup de chance, c'est l'appendicite.
Ah oui.
L'appendicite, octobre 1968, j'ai mal au ventre. Bon, à cette époque-là, appendicite, on n'en parle plus. L'appendicite, à cette époque-là, c'est 15 jours de repos. Et c'est le moment où il y a les Jeux olympiques. C'est au pile poil au moment des Jeux olympiques.
Et la France qui pleure, ouais, c'est ça.
Et donc, du coup, comme je suis au collège, j'ai le droit, comme je n'y vais pas, j'ai le droit de me coucher un peu plus tard quand même. Oui. Et donc, je vois ces Jeux olympiques de Mexico qui sont fabuleux. Alors, je me souviens très bien du 200 mètres. Du 200 mètres entre Tommy Smith et Sandy Alwatt. Et ça, je me suis... J'ai passé des années à me savoir... La course, je l'ai vue. Je suis sûr, c'était le jour de Colette Besson.
Oui.
Et pendant des années, je me suis dit, est-ce que j'ai vu le podium? Et là, j'ai eu la réponse il n'y a pas très longtemps. Non, je n'ai pas vu le podium parce que se coucher plus tard, oui. Passer toute la nuit, non. Et puis, je pense que la télé ne repassait pas les podiums à l'époque.
Mm-hmm.
Et donc, après, il y a cette image de Tommy Smith et Don Carlos, sans oublier Peter Norman sur le podium. Moi, j'ai 11 ans, faut qu'on me dise pourquoi ils font ça. Mm-hmm. Faut qu'on me dise pour ça, faut... Oui, le, c'est,
ouais,
et
le point
pour
levé,
moi, ça va être ça, c'est le point levé. Ouais, sur les deux athlètes noirs américains qui lèvent le point sur le podium mm-hmm. au moment où retentit l'hymne américain, ils seront exclus des Jeux, exclus du ouais. mouvement olympique, mm-hmm. ostratisés aux États-Unis. Bon, ils vont avoir une vie terrible, mais c'était des militants des droits de l'homme. Mm-hmm. Et c'est la preuve que les Jeux olympiques peuvent être une pièce de résonance. Ils avaient, après qu'on a un petit peu dit les choses, il y avait une partie des Noirs américains qui était pour le boycottage. L'autre était plutôt pour y aller et mmh. pour faire des actions. Et ça a eu un grand retentissement.
Mmh.
Et donc, moi, je vois ça, j'ai 11 ans, et ça me questionne. Voilà. Ça me questionne. Et donc, ça va au-delà du spectacle sportif. À chaque fois, j'ai des questions. Quand on est gamin, on a des questions. Et après, c'est encore Mexico, 70, c'est la Coupe du Monde de Pelé.
Ah oui.
À l'époque, à la télé, on avait du foot. C'était l'équipe de France, la finale de la Coupe de France. L'équipe de France qui perdait tout le temps. Puis d'un seul coup, cette magie mexicaine, cette équipe du Brésil 70, avec des artistes, des choses qu'on n'avait jamais vues, Pelé qui tente un tir du milieu de terrain. Enfin, c'était pendant un mois, là, je regardais les matchs et après, je suis tombé dedans.
Oui, puis après, c'est parti, ouais.
Après, c'est parti.
Mais les premiers... Alors, vous parliez 68, vous avez pleuré comme la France entière avec Colette Besson? Non,
alors,
pas trop.
Non, parce que j'ai... Alors... J'ai une qualité, un défaut, c'est la même chose, je ne suis pas supporter.
Oui.
Je ne suis pas supporter, oui. Alors j'aime bien quand les Français gagnent.
Non, mais ton jeune, bon.
Mais même, j'ai jamais eu ce côté supporter. Alors quand la France gagne, je suis très content. Hein. Il y a la victoire d'un balleur, l'égalisation à la dernière seconde, et contre la Suède, c'était encore pire, je suis très content. Mais par contre, je ne vais pas aller défiler sur les Champs-Élysées parce que la France a gagné la Coupe du Monde. C'est... Ouais. Alors j'aime bien quand les Français gagnent, bien sûr, mais je peux ne pas y avoir de Français, et puis mm-hmm. ça m'intéresse quand même. Une mm-hmm. des plus belles images de sport que je garde, c'est le 100 mètres du Usain Bolt à Pékin. Oui, il n'y a pas de Français.
Alors, bon, il y a la passion du sport, et ça vous donne l'envie d'en faire votre métier?
Alors, c'est un petit peu plus complexe. Alors, mon métier, ça va être l'écriture.
Oui.
Ça va être l'écriture.
Ça, c'est la deuxième passion.
C'est la deuxième passion. Alors, la tradition familiale dit que j'ai appris à lire dans l'équipe et dans le Petit Larousse.
Ah oui, mais comme souvent.
Comme souvent, et c'est pas impossible.
On apprend dans l'équipe, souvent.
C'est pas impossible. Donc après, je vais faire de l'écriture mon métier. Enfin, je vais être correcteur, surtout.
Oui, alors on va dire ce que c'est que le métier de correcteur. C'est un métier très, très important. Hein.
Alors, le métier de correcteur, c'est un métier très complexe. C'est-à-dire on analyse les textes des autres et on corrige les autres. On corrige les autres, ce qui fait que c'est pas simple, parce que on change pas le fond, quoique parfois on pourrait.
La forme, tout ça.
On change la forme, on refait des phrases. C'est un travail assez complexe pour rendre un texte lisible pour le lecteur. Alors, la complexité, c'est que vis-à-vis des autres, vis-à-vis des écrivains, on les corrige. Donc en général, ils sont pas contents quand on leur corrige leur texte ou qu'on leur montre leurs défauts. Et puis une fois que le livre est paru, s'il y a une faute, c'est de la faute du correcteur. Et oui. Donc j'ai exercé ce métier-là pendant 30 ans. J'ai eu des responsabilités syndicales au niveau du syndicat des correcteurs.
Ouais, alors on va rappeler que c'était une maison d'édition.
Alors c'était à l'Encyclopédia Universalis.
Ah, c'est ça.
C'était pendant 35 ans à l'Encyclopédia Universalis. Et j'ai fait entrer le sport dans l'encyclopédie. Mm-hmm. Là, c'est comme ça que je suis devenu historien du sport, parce que quand les pères fondateurs de l'Universalis ont créé l'encyclopédie en 1968, c'était toutes des universités à Briand, mais ils ont décidé que le sport n'entrait pas, ne faisait pas partie de la culture.
C'était ringard à l'époque.
Ça faisait pas partie de la culture. La musique, ça, on pouvait, la danse, on pouvait, à la limite, mais le sport, non. Et puis un jour, au moment du passage au numérique, ils ont fait un DVD avec Montparnasse Multimédia sur l'histoire du XXe siècle, et leur partenaire leur a dit « mais il n'y a pas de sport ». Il n'y a pas de sport, du coup, ils m'ont appelé au secours, faut écrire une centaine d'articles sur les sportifs. Là, c'était parti.
Ouais.
Là, c'était parti. Et après, bon, donc, j'ai dû écrire 1500 articles pour Universalis, mon premier bulletin papier paru dans le média sur le Tour de France. Mon gros œuvre, c'est.
Oui, on va en parler de tous ces livres-là. Ouais. Ouais. Mais il n'y a pas une hantise de la page blanche?
Non, il n'y a pas une hantise.
Ça vient comme ça, naturellement?
Ça vient comme ça, naturellement. C'est-à-dire que j'ai pas de contrainte. Oui. C'est pas comme si je suis obligé de faire un papier. J'ai pas de contrainte. Si j'ai pas envie d'écrire, j'ai pas envie d'écrire. Et je me définis comme ça, je peux pas vivre sans projet. Donc j'ai toujours plusieurs livres en cours d'écriture, qui s'achèvent ou qui s'achèvent pas. Non, j'ai pas la peur de la page blanche. Par contre, j'ai un gros défaut, c'est que je peux pas me passer d'ordinateur.
Ah oui ?
Ah oui, c'est fini. C'est fini, je peux plus écrire à la main.
Ah, c'est marrant.
Tu peux plus écrire.
Parce qu'au contraire, il y a beaucoup d'écrivains qui, eux, disent, moi, je garde encore le crayon.
Oui, mais alors ça, c'est un petit peu des postures, je pense. Mais moi, c'est maladif, hein, parce que un de mes premiers livres, j'étais pas en vacances, je me suis dit, je vais écrire le début. Impossible. Ouais. Genre, je suis revenu à la maison, devant l'ordinateur, je fais 100 pages.
Ah,
et maintenant, écrire à la main, ça, je peux pas. Bon, ça, c'est une digression.
Quel est votre regard sur la presse sportive, actuellement?
Alors, la presse sportive...
Attention, on a beaucoup de copains.
Il y a beaucoup de copains. C'est... Malheureusement, en France, il y a l'équipe et rien d'autre. Il y a l'équipe et rien d'autre. Maintenant, honnêtement, l'équipe, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, moi, j'achète depuis 1964 et je lis tous les jours.
Il y a quand même l'angle qui a changé aujourd'hui à l'équipe, quand même.
Bah, oui,
c'est normal.
C'est beaucoup plus football. Il y a quand même encore des enquêtes. Il y a quand même encore des enquêtes et... Il y a aussi des prolongements avec la chaîne L'Équipe aussi qui fait des choses. Bon, ça a changé, la presse sportive a changé, forcément.
C'est un multimédia aujourd'hui.
C'est un multimédia, mais ça me paraît normal. Et c'est un média qui n'est pas excessif. On n'est pas comme dans la presse italienne, espagnole, où c'est très excessif. Et ils essayent de ne pas trop faire dans le supporterisme. Quitte à parfois être un petit peu objectif, non objectif à l'envers. Mais bon, je ne pourrais pas me passer.
Oui, parce qu'aujourd'hui, les matchs ou les événements sportifs, on les voit, on les revoit, donc on n'achète plus l'équipe que pour ça. Quoi.
Non.
Donc il faut trouver, comme on dit en termes journalistiques, un autre angle.
Il faut trouver un autre angle. Il faut quand même avoir compte rendu du match, parce que tout le monde ne l'a pas vu. Et puis c'est le prérequis. Mais effectivement, il faut analyser. Alors après, il y a un petit peu trop d'analyse maintenant. Alors, d'analyse des matchs, le nombre de passes, le nombre de kilomètres.
Oui, mais on l'a sur Internet aussi, c'est pour ça.
Oui, il y a un moment où ce qu'on appelle les data, ça bouffe un petit peu le sport. Là, maintenant, on va nous dire que Kylian Mbappé court à 37 km/h. On s'en fout. S'il court moins vite et qu'il marque des buts, c'est aussi bien.
Et la jeune génération de journalistes, vous la trouvez comment? Parce que je dis ça parce qu'à une époque, fallait faire un immense, et en tant qu'historien, ça a été le cas, un immense travail d'archives. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus facile.
C'est un peu plus facile, mais ils ne sont pas avec
Internet.
Ils sont plus tournés vers le multimédia. Mais je ne vais pas critiquer la jeune génération.
C'est
autre chose.
Surtout pas.
Ils ont une approche un petit peu différente. Ils sont obligés de suivre l'évolution des médias, l'évolution des mentalités. Ils sont obligés d'être beaucoup plus réactifs. Beaucoup plus réactifs, c'est-à-dire quand il y a un truc qui tombe, il faut savoir le mettre en avant, il faut savoir l'analyser, il faut savoir le vérifier. Et la vérification, justement, si on revient au métier de correcteur.
C'est ce que j'allais dire.
La vérification de l'information. Là, on a un vrai problème, et ça, c'est pas propre aux médias sportifs, hein. C'est propre à tous les médias. Quand il y a quelque chose qui passe, le nombre de médias qu'ils reprennent sans vérifier, c'est une horreur.
C'est-à-dire une information qui n'est pas bonne, une phrase qui est mal tournée, des fautes d'orthographe?
Des phrases mal tournées, maintenant, je crois que tout le monde s'en fout. Les fautes d'orthographe, je crois que malheureusement, à part moi, ça ne concerne pas plus grand monde. Mais ne pas vérifier l'information.
Oui,
c'est-à-dire
oui.
que...
La véracité de
voilà, une affirmation fausse qui est reprise. Il y a l'exemple classique, c'est la reine d'Angleterre, quand son décès est annoncé dans les années 2010
oui.
par la BBC, le monde entier l'a repris, ouais. alors qu'elle est en pleine forme.
Oui, c'est quand même la base du métier. Quoi.
Oui, ça c'est facile à vérifier. Quand même.
Ouais, ouais, ouais,
moi, pour un exemple personnel, j'avais été interviewé par BFM TV pour une faute d'orthographe dans un manuel. Et puis après, tout le monde est venu. Mais personne n'a vérifié qui j'étais. C'est les gens, toutes les France 3, M6, tout le monde m'a appelé, venu chez moi pour m'interviewer. Et personne n'a vérifié que c'était bien Pierre Lagrue. Mm-hmm. Donc c'est un petit peu tout ça, cette information qui galope tout le temps, et on n'a pas le temps de prendre le recul. Et moi, c'est ce que j'aime, c'est prendre le recul.
Oui, bien sûr. Bah oui. Alors justement, combien de livres vous avez dit que vous avez écrit?
Alors, j'en ai qu'une vingtaine. Mais,
une vingtaine En combien de temps vous les écrivez?
Ça dépend. Ça dépend, mais ça va vite. Ça va vite. Alors, le prochain, on ne peut pas dire le titre encore.
Ah, oh, si, allez. Non.
Non, mais ça a très un aspect très particulier des Jeux Olympiques.
D'accord.
Totalement inconnu.
D'accord. Et on parlait du hand, il y aura un livre sur le hand un jour?
Non, parce qu'il n'y a pas de public.
Eh oui, c'est pas.
Il n'y a pas de public.
Ouais, malgré les titres, oui.
C'est malgré les titres, parce que là, je dirige une collection avec mon ami Philippe Laurin.
Oui.
Illustrateur qui est très connu.
Très bon illustrateur. J'ai découvert ses dessins lors du salon du livre, là.
Oui, ben
là, d'Elancourt.
D'Elancourt.
Ouais.
Tous les deux, on est en osmose. Là, je fais les textes et lui, les dessins, on se critique. Et on a commencé ça en 2021. On a fait les cyclistes, on a fait les footballeurs, les rugbymen.
Oui, c'est ce que j'ai vu, oui.
Et puis là, le prochain, ben, on a du mal. On a du mal parce que... On voulait faire le judo, mais ça ne se fera pas parce que la fédération n'a pas voulu nous aider. Il y en a un sur lequel je suis très déçu. C'est je voulais faire les champions paralympiques.
Ah bon?
Oui, je voulais faire les champions paralympiques, mais j'avais contacté le comité paralympique français.
Et il y a un refus.
Il n'y a pas eu de refus. Je peux le faire si je veux, mais je n'en voudrais pas. Donc l'éditeur, il va pas le faire, il ne le fait pas.
Peut-être qu'après les Paralympiques, ça peut-être un peu changer, peut-être après les Jeux...
Non, je pense que non. Là, j'ai peut-être fait très content avec la présidence, qui m'a bien reçu, mais qui ne va pas le débourser. Et en plus, c'est des sommes minimes, c'est 5 000 euros. Mm-hmm. Quand on voit les budgets des Jeux, même Paralympiques, 5 000 euros pour graver, pour mettre en avant tous ces champions, qui vont avoir leurs 2 semaines de gloire... minime, et puis après, ils vont retomber. Bon, c'est dommage, donc. C'est complexe, et puis on va tomber, à cause de l'Olympique, en concurrence avec des grosses pointures des médias. Mm-hmm. Des grosses pointures des médias qui vont sortir leurs bouquins, qui vont être sur tous les plateaux, donc...
Alors justement, on avait aussi le sentiment que la littérature sportive, elle est un petit peu moins... donc conséquente qu'il y a encore une vingtaine d'années.
Ah non.
Non, pas du tout. C'est un peu l'impression que ça donne.
Elle est moins connue.
Tant mieux.
Elle est vraiment de bonne qualité.
Oui. Mais il y a autant de bouquins qu'avant?
Il y en a plus.
Plus? Ah bah tant mieux.
Moi, je suis aussi membre de l'association des écrivains sportifs.
On les avait reçus d'ailleurs avec Benoît et Merman qui avaient été à ce micro.
Oui, Benoît que je connais bien. Chaque année, il y a les prix. Non, il y a beaucoup de choses qui se font et beaucoup de choses qui sont bien.
D'accord.
Il y a des éditeurs spécialisés en sport. Mm-hmm. Il y a vraiment... Non, c'est comme tous les livres, ça a du mal à vivre. C'est pas très au problème du sport. Mais il y a toujours, c'est vivant, mais c'est difficile. Tout est difficile.
Alors par contre, comment ça marche? Vous gagnez combien sur un livre?
Alors, sur un livre, pratiquement rien.
C'est incroyable.
Je vais vous dire, c'est les droits d'auteur, c'est
7%.
7%.
Du livre qu'on vend.
Quand le livre.
Des fois, il peut y avoir 3 ans, 4 ans, 5 ans de travail. Et puis...
Oui, mais moi, j'ai la chance, j'ai pas besoin.
Oui.
Je suis à la retraite. Ma retraite, j'ai pas besoin de cet argent pour vivre. Mais ceux qui en ont besoin, c'est une horreur.
Non, puis c'est un travail immense quand même. Il y a un travail de recherche, c'est quand même ça qui prend du temps.
Il y a un travail de recherche, mais c'est un travail de passion.
Oui, bien sûr.
C'est un travail de passion. Moi, je m'autorise depuis quelques années à ne plus faire que les choses qui m'intéressent et qui me plaisent. Mm-hmm. Si, par exemple, venir ici, ça me plaît.
C'est gentil.
Ben non, si ça ne m'avait pas plu, je ne serais pas venu.
Ouais.
Et mes amis le savent. Il y a des choses, si je n'ai pas envie, je ne viens pas. Donc, je suis royal. Là, je ne fais plus que des choses qui me plaisent. Mm-hmm. Et aller faire des recherches, j'adore.
Mm-hmm.
J'adore essayer de faire remonter des choses méconnues. Et quand j'ai fait mon gros bouquin sur les Jeux Olympiques, quand même 1400 pages de charpente photo,
il faut quand même.
Là, j'ai décortiqué tous les rapports des comités d'organisation des JO.
Alors, par Internet ou alors on appelle
Non, là, c'était par Internet. Oui, et là, à l'époque, on pouvait les télécharger.
Oui, c'est plus
le cas maintenant. Donc, j'ai 25 000 pages de compte-rendu que j'ai téléchargé. Et là-dedans, il faut aller chercher les résultats, les classements, et puis revoir les images, voir un petit peu comment ça s'est passé. Puis même les journaux de l'époque... Il y a voir les Jeux à Paris cette année, mais les Jeux de 1924, c'est une trame très intéressante. Les Jeux de 1900, notamment, on m'a interrogé, la télé brésilienne m'a interrogé il y a quelques temps sur les Jeux de 1900 et de 1924. Les Jeux de 1900, ils pensaient que c'était quelque chose d'important dans l'histoire de France. Et en fait, non. Il faudra expliquer, non. En 1900, la grande affaire pour la France, c'est l'exposition universelle. Et à l'intérieur de l'exposition universelle, on va mettre les Jeux Olympiques. On va mettre des choses qui vont s'appeler concours de sport à l'occasion.
Oui, parce qu'il n'y a pas autant d'épreuves que maintenant.
Ah, il y en a beaucoup plus.
Ah bon ?
Ah, il y en a beaucoup plus.
Ah ouais ? Qu'est-ce qu'il y avait comme sport en plus ?
Alors, il y avait des choses totalement baroques. Il y avait le croquet.
Ah ouais ?
Le croquet, le cricket, le polo.
Oui, ça, on a joué enfant.
Oui, oui. Alors, il y a la pêche à la ligne.
Ah bon ?
Qui finalement n'a pas été reconnue.
Ah oui.
Il n'a pas été reconnu parce qu'il y a eu tellement d'épreuves et tellement de capharnaüm qu'il a fallu après voir quel sport était olympique, quel sport n'était pas olympique. Par exemple, le tir au canon n'a pas été reconnu, contrairement au tir au pigeon vivant.
Mm-hmm. Ah, d'accord.
Donc, il y a eu 350 pigeons massacrés à coups de fusil. Et ces Jeux olympiques de 1900 ont été un camouflet pour Coubertin.
D'accord.
Coubertin, qui aurait voulu que ce soit les premiers, et il a été exclu, il a été complètement exclu. Et quand vont arriver les Jeux de 1924, ça aussi, c'est assez intéressant de regarder l'histoire, parce qu'en 2017, quand il y a eu la double attribution, Paris 2024, Los Angeles 2028, on sait que c'était impossible de refuser à l'un comme à l'autre. Et tout le monde a dit que c'est la première fois qu'on attribue deux éditions des Jeux en même temps. C'est pas vrai, parce que ça a déjà eu lieu en 1921.
Ah, vous voyez.
En 1921, pour les Jeux de 24, il y a Paris, Amsterdam, Los Angeles qui sont en lice. Et Coubertin comprend que Amsterdam va gagner. Et alors, il convainc Los Angeles de reculer. Los Angeles est le rang 32.
Ah, décidément, Los Angeles.
Ah, oui. Et Coubertin sent que Amsterdam va gagner, et du coup, il fait ce qu'il appelle un coup d'État. Il dit finalement, on va les attribuer 1924 et 1928 en même temps, comme pour le premier 2024 et 2028.
100 ans après, ouais.
100 ans après. Et en contrepartie, il abandonne la présidence du CIO après les Jeux de 24, si Paris est élu, et Paris est élu. Paris est élu, et les Jeux de 24 sont une vraie réussite.
Alors, les Jeux de maintenant, naturellement, vous les attendez avec beaucoup, beaucoup...
Je les attends, c'est un rêve d'enfant, quoi. C'est un rêve d'enfant d'avoir les Jeux à Paris. J'ai beaucoup d'espoir et beaucoup de crainte. On vit dans une société difficile, une époque difficile. La France n'est pas vraiment un pays de sport. Il y a des bisbilles au sein du comité, même au sein de l'État. Pour l'instant, ce n'est pas simple. On peut espérer qu'il y ait un moment où la magie soit là.
Est-ce que ce n'est pas typiquement français, ça, d'être un petit peu... On est un petit peu long, quand même. Hein.
Peut-être, oui.
98, c'était pareil. La Coupe du Monde de foot, au départ, c'était pas... c'est monté en puissance,
c'est monté
la passion,
en
et puis voilà.
C'était monté en puissance parce que la France gagnait.
Oui.
Et moi qui habitais à Clairefontaine.
Ah oui ?
Oui, ma mère habitait à Clairefontaine.
Oh.
J'ai vu le phénomène, j'appelle ça les invasions barbares. D'un seul coup, mon coin à champignons qui était envahi par des milliers de personnes. Et c'était sympa que la France gagne. Mais avec Zidane président sur l'Arc de Triomphe, un million de personnes sur les Champs-Élysées, pour moi, c'est de la folie. C'est de la folie. D'un autre côté, c'est pas mal non plus qu'un pays peut se retrouver derrière.
Il y a tellement peu d'occasions.
Derrière derrière quelque chose de fédérateur. Moi, bon, après, une récupération politique absolument scandaleuse, mais l'idée n'était pas mauvaise de cette France. Cette France Black Mamba avec...
C'est notre histoire, pourtant.
C'est notre histoire. Ah oui. C'est notre histoire. C'est notre histoire. Et c'était bien que... C'était bien que le pays se retrouve derrière cette équipe qui était l'histoire de, la nouvelle histoire de France. Malheureusement, deux ans après, il y a l'extrême droite au deuxième tour donc, de la présidentielle. Mmh. Donc tout ça a été un petit peu factice. Alors, typiquement français, je ne sais pas. Est-ce que les derniers Jeux Olympiques ont été réussis? Alors, il y a l'exemple.
Il a fallu gérer quand même.
Il y a pas mal de choses à gérer. Ouais. Ça coûte des milliards. Le parcours de la femme olympique protégé par des gendarmes et des policiers. Je sais qu'on ne peut pas faire autrement, mais c'est un petit peu difficile. Je vais intervenir dans quelques temps sur la trêve olympique. Qu'est-ce qu'on sait que c'est cette trêve olympique avec des policiers et des militaires partout? On ne peut pas faire autrement, mais quand même. Donc,
Mais parce que, les gens ne le savent pas, mais rappelez ce qu'est la trêve olympique. Il y a une tradition.
La trêve olympique, ça remonte.
Il y a une tradition.
Alors, ça remonte à l'Antiquité ou dans les Jeux de la... Avant les Jeux de la Grèce antique, les combats s'arrêtaient pendant les Jeux. Alors, et c'était pas pour une volonté de paix. C'était pour que les concurrents puissent se rendre à l'Olympique sans risquer d'être attaqués. Mm-hmm. Donc pendant un mois, il n'y avait plus de guerre en Grèce. Ouais. Après, ça a duré plus longtemps. Et la trêve olympique, elle est inscrite dans la charte olympique. Théoriquement, pendant les Jeux, les armes devraient se taire. Ça n'est jamais arrivé, ça n'arrivera jamais. Il y a une seule fois où l'appel à la trêve, chaque cérémonie d'ouverture, on fait l'appel à la trêve olympique, mais il y a une seule fois où c'était vraiment poignant, de mon point de vue, c'était en 92 à Barcelone, quand Samaranch et puis, je ne sais plus qui, le président espagnol, ont appelé à la paix en Bosnie, à la trêve en Bosnie-Herzégovine. Oui. Oui, oui. Bon, ça n'a rien donné, mais les combats ne sont pas arrêtés, mais il y avait cette fois, c'était un appel assez solennel à la trêve olympique. Donc la trêve olympique, c'est quelque chose de très relatif.
Oui. Quels sont les sports où on écrit le plus facilement? Le vélo, par exemple, c'est un sport mythique. Alors,
le vélo
parce qu'il y a l'aventure humaine, toujours.
Le vélo, c'est ma première passion.
Oui, oui.
C'est le Tour de France.
Ah oui, ça reste encore...
Le Tour de France, c'est magique. C'est magique parce que c'est accessible à tous. C'est gratuit, c'est accessible à tout le monde. Tout le monde a fait du vélo et tout le monde sait que c'est dur de pédaler. Mmh. Donc il y a quand même une admiration pour ces champions, parce que monter l'Alpe d'Huez ou Galibier, c'est tout simplement pas possible. Mais moi quand même, quand j'étais jeune et que je faisais un peu de vélo, la côte des 17 tournants dans la vallée de Chevreuse, moi j'avais du mal. Alors, je les vois à la télé, ils étaient même en train de manger leur sandwich avant de monter la côte. Donc c'est un petit peu désespérant. Mais le cyclisme, c'est le sport de toutes les magies. On peut tout imaginer.
Imaginer. C'est vrai que tout le monde a une image du Tour de France.
Bien sûr. Tout le monde.
La caravane, les poids sportifs, le Bob Cochonou, les blagues.
Le Bob Cochonou, c'est quelque chose de très demandé.
C'est bien, c'est pour ça que je dis ça.
Les spectateurs, si tu arrives à voir le Bob Cochonou, il est content. Il est content et tout le monde, c'est quelque chose qui n'intéresse pas forcément tout le monde, mais qui fait partie de la vie du pays. Et pour être un petit peu plus grave, il y a eu quelque chose de très important en 2020. Alors en 2020, avec le Covid, tout a été annulé, mais pas le Tour de France.
Oui.
Pas le Tour de France, reporté.
C'est vrai. Mois de septembre, mais ça a été un beau succès en plus.
C'était une volonté très 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 forte du gouvernement. Mm-hmm. C'était même quasi impossible à organiser, parce qu'il y avait encore les confinements à je ne sais pas combien de kilomètres, il y avait des jauges, enfin c'était... Et des contrôles, des tests tous les matins, s'il y avait un coureur qui était positif, toute son équipe était virée. Mais ça voulait un signe d'espoir. Ça voulait dire que le Covid, ça a bientôt fini. Et je rapprochais ça du Tour de France 1919, où Armand Desgranges a voulu vraiment que le Tour de France reprenne juste après la guerre. Bon, c'était un Tour de France horrible, c'était sur des routes défoncées et nous n'avions 11 coureurs qui ont terminé. Mais en 1919, avec le Tour de France, et en 1947, aussi une volonté du gouvernement provisoire de la République d'organiser le Tour de France pour que c'est le symbole du début de la reconstruction, c'est le symbole de la reprise de la ville, de la fin de la guerre. Et en plus, cette année-là, c'est Jean Robic qui gagne. Ça ne peut pas être un personnage plus populaire que lui.
Ah oui.
Il court dans l'équipe de Bretagne, dans l'équipe de l'Ouest, qui est la Bretagne. Il est pas beau, c'est pas le plus fort. Il gagne le dernier jour.
Oui, le dernier jour.
Et cette année 1947, c'est le Tour de France, c'est la reprise de la vie. Et comme en 2020, on attendait une reprise de la vie avec le Tour de France. Mmh. Et puis pour une anecdote un peu personnelle,
oui.
Ma femme déteste le sport.
Oui.
Mais vraiment, elle déteste.
Alors comment vous faites?
Ben, on a chacun notre télé, hein, c'est pas compliqué. Elle déteste, quand il y a la finale de la Coupe du Monde, elle vient me voir qu'est-ce qui se passe, il y a du bruit dehors. Ah bah oui, mais oui. Le Tour de France, elle l'a vu passer. Et ouais, même avant moi. Parce que quand ça passe devant sa porte, on y va plus.
Bien sûr. Et puis il y a les paysages maintenant qu'on regarde un petit peu. Tellement bien filmé maintenant.
C'est
qu'on voit la France aussi. C'est une agence de voyage aussi. Hein.
Maintenant, c'est une agence de voyage, mais ouais. c'est vrai que c'est beau. Quoi. C'est beau parce que. Dans la course elle-même, il ne se passe rien. Pendant la plupart des étapes, il ne se passe rien.
Oui, bah oui, bah oui.
Mais bon, il y a tous ces paysages, toutes ces beautés. C'est une pub pour la France.
Bon, bah écoutez, c'est passionnant tout ça. On se retrouve tout à l'heure. On écoute la première pause musicale. Marie Laforêt, Il a neigé sur Yesterday. Et puis ensuite, on vous retrouvera. Puis on va aussi parler, malheureusement, du cyberharcèlement dans le sport parce que c'est un fléau des temps modernes. Allez, on y va. Marie Laforêt, auparavant.
Endormie et elle a sa main, lui fut enveloppée.
Voilà donc la deuxième partie de notre émission. Alors on va parler d'un phénomène malheureusement assez donc grave et assez récurrent par les temps qui courent. Donc le cyberharcèlement dans le sport avec Laura. Donc Laura, vous nous avez parlé un petit peu de votre association et malheureusement le sport est aussi victime de ce gros fléau. Hein.
Bah oui, parce que le sport, c'est un milieu qui touche tout le monde, enfin, dans le sens où on se réunit dans le sport, on a notre vie en tant que sportif et sportive, et on a nos vies à côté, donc avec les écrans qui font partie de la vie sportive, mais aussi des vies personnelles de ouais, chacun, chacune.
Comment est née votre association ? Qui a eu l'idée de dire, bon, maintenant c'est tellement grave, c'est tellement donc, important qu'il faut faire quelque chose ?
Alors, moi, je suis coordinatrice de l'asso. Mmh. Et la personne qui est à l'origine de cette association s'appelle Philippe Cohen.
Oui, oui, qu'on a rencontré au Fair Play.
Tout à fait.
Et je crois qu'aujourd'hui, il est pris à des vœux de Madame Dati dans le 7e. Hein,
c'est exactement. Ça, voilà. Donc, ouais. Il a des obligations professionnelles et associatives bien remplies. Donc, Philippe Cohen est avocat et juriste. Et donc, il... En fait, il a été témoin via ses enfants d'un cas de harcèlement en fait en ligne d'un professeur de l'école des de ses enfants et donc c'est comme ça qu'il s'est en fait investi de cette nouvelle forme de violence et du coup Respect Zone existe depuis 10 ans, c'est l'année des jubilés.
D'accord, très bien. Alors je crois que vous avez une collègue qui est au téléphone hein, parce
exactement.
Qu'elle est en province, elle va se présenter. Bonsoir.
Bonjour.
Oui, bonjour, bonsoir. Donc vous êtes plus particulièrement spécialisée dans le domaine du sport hein, au sein de votre association.
Oui, dans les interventions et tout ce qui va être animation et formation. Et donc c'est moi qui anime majoritairement les interventions dans le sport.
Alors comment ça se passe quand on est un sportif ou une sportive donc cyber harcelée? D'abord, je suppose que la difficulté c'est d'en parler.
Oui, c'est quelque chose qu'on retrouve à travers dans différents domaines qui peut concerner tout le monde. Quand on parle de cyberviolence et de cyberharcèlement, c'est déjà de pouvoir prendre conscience de ce qui nous arrive, que c'est pas anormal et que c'est pas quelque chose à banaliser et c'est pas quelque chose qui arrivera toujours. Donc déjà oui, il y a première chose, c'est d'en prendre conscience. Et parfois c'est soi-même, parfois c'est en parlant avec d'autres gens, parfois c'est en entendant les histoires d'autres personnes qu'on réalise que ça nous est arrivé. Donc oui, ça va être une première étape.
Alors, bon, les principaux harcèlements, ce sont donc des moqueries, des insultes, des intimidations, c'est ça d'abord ?
Oui, je trouve ça toujours un peu difficile de quantifier qu'est-ce qui arrive plus, parce qu'en fait, il y a tout un panel de oui. ce qui peut se passer. Il y a des violences qui existent dans la vie physique. Hein. Vous parlez d'insultes ou de moqueries, d'énigrement, le rabaissement, les menaces, le chantage. Ça, c'est des choses qui existent et puis qui peuvent se retrouver en ligne. Puis après, il va y avoir toutes les violences qui sont spécifiquement liées au numérique. Donc tout ce qui va être photomontage, partage de vidéos humiliantes, diffusion de contenu intime. Les raids numériques aussi, où tout d'un coup, il va y avoir une cinquantaine, une centaine de personnes qui vont envoyer des messages de haine. Donc, voilà, c'est des choses qui sont plus numériques. Oui.
Alors, surtout peut-être dans le domaine du foot, hein, où on voit des fois qu'il y a des supporters qui ne sont pas contents parce qu'ils payent cher, ils payent le prix d'une place, et puis bah, finalement, ils estiment que leur équipe favorite n'a pas répondu présente à leur attente. Donc, ils deviennent un petit peu trop agressifs sur les réseaux. Puis je crois qu'il y a aussi le problème des paris en ligne, hein, qui fait perdre aussi parfois beaucoup d'argent.
Oui, c'est... En fait, nous, dans nos interventions, on vient parler surtout avec alors, des plus jeunes. Ça peut autant être des personnes qui sont amateurs, donc on va dans des clubs sportifs comme des clubs de formation à visée professionnelle. Donc ça peut être aussi des pôles espoirs ou des jeunes qui se destinent à cet avenir peut-être un peu plus poussé. Donc, Là, et les choses qu'on voit ressortir à travers votre question, les choses qu'on voit ressortir par rapport à ça, ça va... En fait, c'est que de toute manière, il peut y avoir une pression qui est ressentie.
Bah oui.
De performance, qui est quelque chose qui peut être très, très sain et challengeant. Mais une fois que... En fait, ce qu'on voit aussi avec les jeunes avec qui on peut parler, et puis les personnes qui les encadrent, qui les entourent, comme les familles, les parents, les éducateurs, les entraîneurs, les équipes dirigeantes, c'est que en fait, chacune joue un différent rôle. Il peut y avoir, parce que même les sportifs et les sportives, souvent se sont retrouvés ou continuent de l'être des fans, des supporters de leur sport ou d'autres sports qu'ils ne pratiquent pas. Et donc, il y a tout aussi cette culture-là autour de... Il y a les paris, bien sûr. C'est quelque chose qui, je pense, beaucoup de gens ont conscience et auquel beaucoup de gens participent. Et puis, il y a... Vous m'entendez bien, c'est bon?
Oui, c'est très bon. Continuez, oui, allez-y, c'est parfait.
Et puis, il y a toute cette pression qui ne passe pas forcément par les paris ou par l'argent, mais quand on parle notamment des réseaux sociaux, le fait de communiquer, le fait d'être visible, et qui vient avec la conscience très tôt chez les plus jeunes de la nécessité d'être repéré, de pouvoir communiquer sur ses performances, que ce soit par rapport à des gens qui voudraient les supporter, les soutenir, mais aussi des potentiels sponsors, des potentiels écoles, équipes qui pourraient être intéressés de faire appel à eux. Donc voilà, j'ai élargi un peu avec votre question sur les paris pour parler de peut-être la pression à être présent en ligne et comment, et les différents rôles qui peuvent être joués, pas simplement en tant que sportive, mais en tant que personne qui crée de cette culture en étant supporter, en ayant son avis sur les sports qui sont pratiqués, en ayant déjà des avis aussi sur la réputation de certains sports et comment et de certaines communautés et comment ça peut jouer aussi.
Oui, alors on sait qu'il y a beaucoup de sportifs et sportives qui s'impliquent dans la lutte. Hein. Il y a Benoît Paire, il y a Alizé Cornet, il y a Nasser Boigny et puis aussi Romane Dicot, hein, qui a beaucoup souffert des insultes qu'elle a reçues récemment sur son poids, je crois. Donc beaucoup de sportifs sont conscients. Est-ce qu'ils sont conscients aussi qu'ils banalisent peut-être un petit peu aussi les réseaux sociaux et que c'est peut-être une erreur?
Peut-être que je vais prendre cette
question. Attendez, on va la laisser finir et après vous allez enchaîner. Oui. Allô?
Oui. Il y a, alors ça vient toujours avec ça, bien sûr. Quand il y a des problèmes, c'est important de venir parler des personnes qui dénoncent ces problèmes-là. Donc nous, on va plus être des acteurs de prévention et puis de venir rappeler des choses qu'on peut faire si ça se passe. Voilà, essayer d'accompagner les personnes sur ces sujets-là. Et puis donc oui, il y a tout un tas d'initiatives à la fois. Parfois un peu individuelle et parfois plus collective, de différents sportifs et sportives qui viennent dénoncer les choses qui leur arrivent. Vous en avez cité certains. Mais on peut aussi parler de différentes... à travers même... donc parfois, ça concerne des disciplines qui, tout d'un coup, proposent de faire une journée sans réseau avec certains sportifs et sportives qui décident de s'engager dans ça, ou des équipes entières qui viennent spécifiquement venir critiquer, dénoncer des choses qui peuvent se passer, des discriminations très précises. Par exemple, là, on pouvait parler de la grossophobie, du sexisme, du racisme, et de venir utiliser les réseaux aussi pour venir rappeler que c'est des choses qui s'y passent. Le racisme, c'est des choses qui sont exprimées en ligne et peut-être d'une intensité différente enfin, pas forcément plus ou moins, mais différente que quand ça se passe dans un stade ou que ça se passe dans un endroit où on vient assister à un sport. Laura Gould, il me semble que tu voulais dire quelque chose.
Oui, Laura. Elle voulait compléter. Vas-y.
Aujourd'hui, il y a quand même cette notion que le sportif, ou sportif de haut niveau, en tout cas de très haut niveau, dans certaines disciplines, bien sûr, vont être soutenus, encadrés par leur fédération, par aussi par leurs équipes, en fait.
Toutes les fédérations jouent au jeu.
Alors aujourd'hui, il y a un plan national du ministère des Sports qui propose, en tout cas, tout un plan éthique et intégrité, donc avec certaines formations, etc. Donc on sait qu'il y a une... C'est quelque chose qui vient de différents niveaux, à la fois par le ministère, mais aussi par les joueurs et par les spectateurs. Au bout d'un moment, il y a quand même un climat qui est quand même néfaste et qui nuit, parce que en fait donc sur la question de la banalisation des réseaux sociaux, ce que je voulais dire, c'était que donc c'est des personnes qui vont être encadrées, soutenues, donc c'est pas forcément eux même qui vont gérer leur contenu, leur réseau, les commentaires, tout ce qu'on va appeler la modération. Y a des équipes qui font notamment appel à des entreprises pour gérer ça, donc pour qu'il y ait un peu un soutien plus automatisé sur la suppression, le signalement de commentaires. Et donc, cette prise de conscience, elle est à différents niveaux, et parce que personne n'a envie d'évoluer là-dedans. Donc, c'est quelque chose qu'on prend conscience petit à petit et qui est en train de s'installer. Donc, ça, c'est quand même quelque chose de très bien. Et on sait que, par exemple, au niveau olympique, parce que c'est quelque chose qui est en train quand même de se préparer à différents niveaux, un peu dans tous les acteurs de la société, notamment les plateformes agissent, se préparent, les institutions sportives également, à comment elles vont protéger les athlètes. Et pas que les athlètes les plus médiatisés, comme tout à l'heure on a cité Kylian Mbappé. Donc avec cette dynamique...
Lui, il est tranquille, lui, il est protégé.
Atteint. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'est peut-être le dernier point à souvenir pour cette question-là. C'est qu'on a beau être protégé, il est beau y avoir des personnes entre nous. À un moment, quand on parle de nous, on le sait, on va aller regarder ce qui se passe. Et quand on voit, par exemple, Kylian Mbappé, même dans son... Il avait été victime de cyberharcèlement sur une campagne notamment de mode, donc pas du tout liée à ses performances sportives,
bien
etc.
Sûr, bien sûr.
Donc il y a eu beaucoup de commentaires, notamment homophobes, sexistes, etc. Et on voit, par exemple, quand 5 commentaires, il y a 10 000 likes. En fait, en 5 commentaires, en fait, on est 15 000 personnes, on a tous un avis, on partage. Donc au bout d'un moment, un tel écho, ça se ressent, même si c'est pas nous qui allons regarder directement. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre vraiment conscience aux jeunes, parce qu'on l'entend dans les interventions, c'est « oui, mais quand on a réussi, quand on est riche, on s'en fiche ». Et bah non. En fait, à un moment, on s'en fiche plus parce que ça atteint. Ça atteint le moral. C'est pour ça que c'est très important de prendre conscience et d'aller leur en parler.
Pierre, drôle de monde quand même.
Oui, c'est un drôle de monde, mais c'est le monde d'aujourd'hui, c'est le monde... C'est le monde
parce que ça rajoute à la pression du sportif et de la sportive.
Je pense que
certains, après, ils vont vers un burn-out.
Le burn-out, c'est aussi quelque chose qui n'avait pas fait toute l'élance. Le burn-out des sportifs, c'est aussi quelque chose de très important. Et ça ne parle pas forcément du cyberharcèlement, mais le cyberharcèlement peut jouer.
Ça peut y contribuer. Laura, tu voulais poser une question ?
Oui, ça fait 10 ans que votre association... sur les réseaux, à la fois au niveau de la quantité des messages qui peuvent être reçus et aussi sur la violence ou sur vraiment le caractère écrit, on va dire.
Alors ça, c'est quelque chose qui est très compliqué à mesurer, malheureusement. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est un sujet qui est vraiment en train d'être mis sur la table. Aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité. C'est un sujet que, par exemple, nous, notre association porte depuis 10 ans. On n'est pas la seule. Notamment, on peut parler du numéro national sur le cyberharcèlement, le 3018, qui est une vraie ressource. C'est que, on va dire, maintenant, ça va faire peut-être un an que, ça y est, on commence vraiment à entendre parler du 3018, que, par exemple, que nous, quand on arrive en intervention, c'est peut-être un numéro qui a été entendu ou vu. Donc, c'est sûr que quand on est en train de parler de violence, il va y avoir un moment où quand on va lever le tapis, tout d'un coup, les chiffres explosent. Donc c'est sûr que là, on est sur un moment où on a l'impression qu'il y en a énormément, énormément, et peut-être beaucoup plus qu'avant. Peut-être pas, parce que c'est très difficile de mesurer en fait cet avant-après. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que c'est quelque chose qui ne diminue pas. Ça, on en est certain. Il y a aussi toute une question en fait de l'engagement et de la responsabilité des plateformes en ligne. sur le fait qu'en fait, quand un contenu a beaucoup de commentaires, beaucoup d'interactions derrière un contenu, bah, c'est là où il me remonte dans les algorithmes. Donc, on sait que les plateformes travaillent dessus aussi. Et puis, bah, avec la mise en lumière de ce sujet-là, il y a aussi la mise en place de nouvelles façons de se protéger.
Oui,
donc,
on va en parler parce que c'est le rôle de votre association. Hein. Vanessa, peut-être une question aussi.
Oui, justement, comment on sensibilise le public, c'est-à-dire plutôt les personnes qui vont être amenées à faire des commentaires, à faire preuve de plus de recul, de modération, à leur faire prendre conscience que justement, ce qu'ils font quand même, c'est extrêmement violent pour la personne qui la reçoit.
Oui, allez-y.
C'est peut-être plus une question pour Henriette, parce qu'elle est au contact de ces jeunes.
Alors Henriette, elle va nous répondre. Voilà, Henriette.
Très bien.
Oui.
C'est toute la question. Hein. C'est la question qu'il faut continuer à se poser et qu'il faut continuer à essayer de tester. Nous, en tout cas, ce qu'on essaye de faire par rapport à ça, c'est de créer ce temps de pause, de dialogue, où on parle de nos usages des outils numériques. Qu'est-ce qu'on y voit? Qu'est-ce qu'on y fait? Et parfois, c'est des choses aussi simples que, en fait, t'es inscrit à... alors, c'est les mots un peu... voilà, pas forcément les mots qu'on utilise, mais t'as combien de comptes de réseaux sociaux? C'est sur quels réseaux sociaux? Et parfois, il y a des gens qui nous répondent tous. Donc, on fait exprès de dire, ah bon, notamment quand c'est quelqu'un qui a 12 ans, est-ce que t'es sur LinkedIn? Est-ce que t'es sur... Signal, est-ce que tu as ton propre compte YouTube? Et donc voilà, essayer de faire prendre conscience déjà à la personne, qu'est-ce que c'est un réseau social, qu'est-ce que ça veut dire? Ça te met directement en relation avec des gens que tu connais pas. Tu peux avoir directement accès à des commentaires de gens que tu connais pas, et ça parfois un peu en apparence sans limite. Donc déjà d'essayer de prendre un peu conscience, est-ce qu'il y a des choses qu'on voit circuler aussi qui nous ont impacté et qu'on n'a pas forcément pris le temps pour digérer. Est-ce qu'il y a des vidéos violentes d'animaux qui se font tuer? Voilà. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas décidé de voir, mais qu'on a vu un peu malgré nous? Des contenus sexuels. Et on sait que ce genre de choses, en fait, sont vues. Elles sont vues la plupart du temps parce que ça, les gens tombent dessus, parce qu'ils sont sur un site internet et qu'il y a une pub comme ça sur le côté, ou parce que ils ont moins pris possession de leur réseau social qu'ils ne croient, en décidant un peu des contenus ou en cliquant une fois sur quelque chose qui a ensuite enclenché qu'ils en voient plus, quoi. Donc d'essayer de prendre ce temps de pause et de parler ensemble de, en fait, c'est quoi la violence? Quand on parle de la violence, c'est pas simplement taper. C'est pas simplement se faire taper ou d'utiliser la force physique, mais ça peut inclure tout un tas de choses. Et à travers ça, essayer de faire, de faire prendre conscience. Nous, ce qu'on aime bien faire, c'est faire émerger la figure du témoin. Parce que c'est parfois plus facile de venir dire « Oui, j'ai vu quelque chose de violent qui s'est passé envers quelqu'un d'autre », plutôt que de venir se dire on m'a fait quelque chose de violent, ou j'ai contribué, j'ai été complice, ou j'ai été auteur de violence envers quelqu'un. Et à travers le témoin, c'est ce qu'on espère, voilà, peut permettre un peu plus de recul pour faire prendre conscience de la complexité des interactions, notamment en ligne, mais qui sont directement à mettre en lien avec les choses qui se passent dans la vie physique, parce que c'est pas des mondes qui sont séparés. Et d'essayer à travers ça de faire prendre conscience quelles sont les actions. Est-ce que quand je suis en train de liker quelque chose, je suis pas en train de soutenir le message, même si moi j'ai l'impression que c'est quelque chose juste, c'est pour rigoler. En vrai, est-ce que ce message-là, si je le lis à travers la personne qui est ciblée, est-ce que c'est vraiment pour rigoler? Est-ce qu'elle peut le prendre autrement? Est-ce que, voilà, essayer de réfléchir ensemble, collectivement, sans dire quoi faire, sans culpabiliser, parce que souvent la culpabilisation, ça empêche la prise de conscience. Donc voilà, j'espère qu'on a un peu répondu.
Voilà, donc c'est le but de votre association, et ça, vous sensibilisez surtout beaucoup le monde du sport à travers les CREPS et puis l'INSEP. Hein. Voilà.
Oui, incluant aussi toutes les personnes qui forment, les personnes qui sont les équipes encadrantes, éducatrices, très largement. les personnes en stagiaire qui passent leur diplôme et aussi bien sûr les plus jeunes.
Alors, je sais que vous avez été récompensé au prix du fair play. Donc, malheureusement, j'ai bien malheureusement, hein, si on veut vous joindre, qu'est-ce qu'on fait ?
Eh bien, on peut nous joindre via les réseaux sociaux.
Oui.
Voilà.
J'espère que
nous y
voilà.
sommes.
Hein ?
Ouais. Pour prêcher la bonne parole. Ouais. Non. Donc, oui, bien sûr, on est accessible via les réseaux sociaux, notamment Instagram, Facebook, Twitter, oui. X. Voilà. Donc, et puis sinon, sur notre site internet, c'est très simple de nous retrouver. Respectzone.org.
Oui. Voilà, parce que j'ai vu un peu des notes que j'ai prises en préparant l'émission sur 1850 jeunes hein, de clubs périscolaires ou futurs pros de l'INSET. Il y a au moins 85% qui ont été touchés par ce phénomène de cyberharcèlement.
Oui, parce que comme on le disait en début d'émission, le sport, du coup, on reste des jeunes, donc on a notre on ramène les problèmes de chez nous et en plus on a quand on est sportif et sportif de haut niveau, la casquette de qui ce sport qui se rajoute donc avec les pressions comme on l'a vu
Et puis tiens, justement, il y avait un autre chiffre, il y avait une conférence à l'ARCOM, c'était mardi, hein, et il y a un tiers donc qui suivent le sport sur les réseaux sociaux, et 53% donc de ce tiers qui reconnaît avoir envoyé au moins une fois un message négatif à un sportif ou sportive, et 40% trouvent que cela est normal parce que c'est soi-disant la rançon de la célébrité. C'est fou quand même, hein.
Oui, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec dans les interventions où quand on a réussi, c'est normal, on peut prendre ça. Non, parce qu'en au bout d'un moment, quand on vient attaquer la personne, qu'on exprime qu'on soit déçu, sa déception, parce qu'on n'a pas marqué, on n'a pas gagné, d'accord. Mais quand ça vient attaquer directement la personne, avec des préjugés racistes, homophobes, sexistes, grossophobes, quand ça se transforme, en fait, comme on le sait très bien, à tout ce qui est l'impact physique, donc avec les gens qui vont trouver nos adresses, les menaces de mort, les choses comme ça. Donc en fait, ça peut aller très vite, très loin, et c'est là où il y a en fait tout ce recul à avoir. Bien sûr, c'est important d'être engagé sportivement pour ses équipes, de soutenir ses équipes. On a le droit de manifester qu'on est déçu d'avoir perdu, mais il y a un peu une limite à avoir aussi. Quand on crie devant sa télé, ça ne justifie pas qu'on ait le droit d'aller insulter le sportif.
Ou alors sinon, vous envoyez des messages de sympathie, d'encouragement. Voilà.
On peut aussi faire ça, le supporter en ligne.
Bah quand même. Voilà. Merci en tout cas.
Merci.
Et puis, tiens, comme on parlait de l'ARCOM, autre petite information, mais là, c'est un petit peu au niveau des retransmissions télé. Il y a 20% de retransmissions sportives concernant le sport féminin. 55% ont regardé les filles contre 73% pour le sport en général. Voilà, puis sont uniquement sur les grands événements quand même. Hein. Donc ça reste encore, c'est bien, mais ça reste encore quand même...
Ça progresse.
Ouais, ça progresse.
Ça progresse, mais c'est pas gagné. Ouais.
Et il y a 47% pour le parasport qui regarde donc les grands événements comme les Jeux Olympiques.
C'est pas gagné non plus.
Voilà. Allez, la deuxième pause musicale avec la compagnie créole Bon Baiser pour Fort-de-France. Ensuite, ça sera le journal des sports et le point foot avec Stéphane.
Yeah.
Voilà, donc la dernière partie de notre émission. On va naturellement, dans quelques minutes, retrouver notre ami Stéphane Desenclos hein, pour le point foot. Et puis ensuite, vous aurez au bout du foot à partir de 20h30, exceptionnellement présenté par LHJ ce soir. Hein, l'ami Malik qui est un peu souffrant, mais je crois qu'il va être aussi très fébrile pour suivre le match entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Alors Laura, on parlait du hand, ça a été naturellement l'événement. Quel week-end de sport, hein, mais ça a été naturellement le premier gros événement pour nous, Français, avec cette victoire de l'équipe de France qui a obtenu son 4e titre de champion d'Europe.
C'est ça, donc les Bleus sont sacrés champions d'Europe de handball tout juste hier, après avoir battu la Suède in extremis 34-30. Après prolongation, les champions olympiques triomphent
33-31. Face... Hein. Ah oui, 34-30.
Oui, la Suède 34-30.
Autant pour moi.
Il triomphe face au Danemark ce dimanche 28 janvier à Cologne, score 33-31 au terme de 77 minutes de jeu avec prolongation.
Ouais, je te coupe, est-ce que ce n'est pas cette demi-finale justement dont t'as parlé Laura qui a permis à l'équipe de France peut-être de dire on sera champion d'Europe quand oui. On marque un tel coup franc comme ça, on peut peut-être battre après.
C'est quelque chose, ça arrive une fois sur mille. C'est voilà. Impossible, c'est ouais. Impossible et après...
C'est un peu comme les deux buts de Thuram en Coupe du Monde,
voilà,
l'inconscient.
Là, c'est quelque chose d'impossible, donc après ça ouvre le champ des possibles, comme on dit maintenant. Mm-hmm. Et le match contre le Danemark, ils sont dominés pendant tout le match, mais les Danois, ils n'arrivent pas à prendre d'avance, toujours plus deux. Mm-hmm. Et on voit que ça va le faire, que la dernière minute, allez, ça va y aller. On est confiant.
Voilà, alors Laura, après le hand, il y a eu le ski aussi, les bons résultats.
Exactement, Coupe du Monde de ski alpin, après les deux exploits de la semaine dernière dont on parlait du français Cyprien Sarrazin. Sur les pistes autrichiennes, c'est au tour de son compatriote Nils Allègre de s'imposer. À 30 ans, il décroche sa première victoire en Coupe du Monde sur le Super G de Garmisch en Allemagne. La française Romane Miradoli décroche le podium sur l'épreuve du Super G de Cortina d'Ampezzo. Moins d'un an après une rupture des ligaments croisés, elle est devancée de 41 centièmes seulement par Lara Gout Berami, arrivée première, et par Stéphanie Vénier. Cette performance récompense les efforts d'une équipe de France annoncée en difficulté avant le début de la saison. Et puis on va parler évidemment de l'Open d'Australie, l'Italien Yannick Sinner qui remporte le Grand Chelem face au troisième mondial Daniil Medvedev. L'Italien s'impose en dimanche en 5-7, 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3.
Ouais, c'est le tournoi de Melbourne, hein, un tournoi du Grand Chelem, le premier Grand Chelem.
Après avoir été mené 2-0, à seulement 22 ans, l'Italien signe sa première victoire en Grand Chelem après avoir éliminé le grand favori du tournoi, Novak Djokovic, en demi-finale en 4-7. Mm-hmm. Côté dames, c'est la Biélorusse Arina Sabalenka, numéro 2 mondiale, qui remporte le titre pour la deuxième fois d'affilée face à la chinoise Zheng Qiwen en 2-7, 6-3, 6-2. 92e édition de rallye de Monte-Carlo, le Suisse Thierry Neuville de l'équipe Hyundai.
C'est un Belge.
Hyundai.
C'est un Belge.
Hyundai remporte dimanche le titre pour la deuxième fois. Le français Sébastien Ogier Toyota arrive en deuxième place. Elphine Evans ferme le podium et le français Adrien Fourmeau Toyota également décroche une cinquième place. Mm-hmm. Et puis il y avait le prix d'Amérique 2024 de hippisme ce week-end. Ouais. Victoire de Idaho de Tillard drivé par Clément Duval d'Estaing.
Oui. Championnat du monde des trotteurs. C'est
ça. À l'hippodrome de Vincennes à Paris, il a devancé Hokkaido GL, Giovalitti, Go On Boy et Italiano Vero. Hooker Berry, vainqueur l'an passé, n'a terminé que 6e. Le français Clément Duval d'Estaing s'offre ainsi son premier sacre dans la plus prestigieuse des courses de trot. Puis on va donner comme d'habitude le résultat de nos clubs franciliens. 13e journée du top 14 de rugby. Samedi, le Stade français gagne son match face à Bordeaux Bègles 30-26. L'équipe du Racing 92 échoue hier face à Toulouse 30-37. Pour l'instant, les deux équipes franciliennes se situent en première et deuxième place, le Racing 92 avec 40 points, suivi du Stade français et de Bordeaux-Bègles avec 37 points. 14e journée de la Ligue Butagaz Énergie, le championnat de handball féminin. L'équipe du Paris 92 échoue ce mercredi 24-26 face à Brest. Niveau classement, elle est actuellement à la 4e place derrière les équipes de Nantes, Brest et Metz. Metz qui est en première position avec 40 points. Et puis volleyball, l'équipe de Paris remporte samedi son match 3-1 face à Saint-Nazaire au terme de cette 18e journée du Marmara Spike League. Le Plessis Robinson remporte aussi son match 3-1 face à Montpellier et conserve sa 8e place du classement provisoire juste devant Paris.
Merci Laura pour cet abondant week-end de sport. Quel fou week-end de sport, hein, Pierre.
Ah, c'est quelque chose, oui. Mais Moi, je n'ai pas trop décollé de la télé.
Entre le prix d'Amérique,
Monte
Carlo, le tennis, voilà. Et puis le foot, on va saluer mon ami Stéphane. Bonsoir Stéphane.
Bonjour.
Comment
bonjour,
ça va
hein à vous. Bonjour à vous.
Oui, je sais qu'il a beaucoup de travail. Il était chez l'ami Jacques Vendroux sur Europe 1 vendredi soir. Il est en bouclage et puis il y a ce point foot à faire comme chaque lundi, Stéphane. Alors on va commencer par la CAN, Stéphane. Avec donc
la CAN, je laisse le soin à mes amis Malik, Elad, Ibrahima et tout le monde et toute la bande de bout du foot de la suivre de très très près, et à vous aussi qui êtes sur place. Je reste un peu plus concentré sur les grands championnats européens où s'est passé aussi beaucoup de choses en Europe déjà. Bon, on va parler bien sûr de la Ligue 1 comme toujours, mais en Europe, s'est passé quand même des choses puisque le Barça a très probablement définitivement perdu le titre en perdant à Villarreal qui joue le maintien, à Villarreal sur sa pelouse de Nou Camp contre Villarreal qui joue le maintien. Et puis le Bayern qui a repris aussi 2 points à Leverkusen, donc il se rapproche. Donc c'est très très chaud, j'ai beaucoup regardé ça. Puis la Ligue 1 aussi.
Oui, alors on va parler de tout ça, Stéphane, mais juste la CAN, comme effectivement mon Paris FM est sur l'événement. Mais même si je l'ai dit ce soir, Malik donc, est malade et c'est El Hadji qui prendra donc le relais. Il y a quand même le Ghana, l'Algérie et la Tunisie qui ont été éliminés sur ce premier tour. Et puis également donc l'Égypte qui a été éliminée hier 1-1 après prolongation, battue par la République du Congo 8-7. Il y a quand même des gros morceaux qui sont tombés, des gros favoris dès le début.
Ouais, tout à fait. Ouais, c'est un truc de fou. Surtout, c'est que avant un match, c'est vraiment difficile de dire qui va l'emporter. Petite anecdote quand même au passage sur le match d'hier entre l'Égypte et la République du Congo. Le dernier buteur de la séance de pénalty, le gardien de but, Lionel Mpassi, c'est le gardien de but de Rodez en Ligue 2 en France, qui dispute, je crois, sa première CAN comme titulaire dans le but, et donc qui a gagné son duel direct avec le gardien égyptien, parce qu'ils ont chacun tiré, et puis lui a marqué un super penalty. Donc c'est toujours plaisant aussi pour les clubs français avec cette équipe du Congo, qui est quand même assez étonnante, avec beaucoup de Français, et c'est dingue comment on voit les porter le maillot de sa sélection pour c'est très important, et ça fait plaisir quand on voit un joueur comme Moutou Sami par exemple, qui est vraiment le patron du milieu de terrain au Congo et qui est même pas toujours titulaire à Nantes par exemple. C'est assez incroyable. Non, mais c'est vrai qu'elle est exceptionnelle, cette CAN, elle est magnifique.
Alors justement, on connaît déjà 2 quarts de finale, Nigeria Angola, le Nigeria a battu le Cameroun 2-0, et puis l'Angola s'est imposé largement contre la Namibie 3-0, donc ça c'est pas surprenant sur les matchs de premier tour. Et on parlait donc la République démocratique du Congo, qui on l'a dit a éliminé donc l'Égypte au tir au but, qui rencontrera la Guinée, vainqueur de la Guinée équatoriale 1-0, et puis se déroule à partir de 18h Cap-Vert Mauritanie, et puis ce soir le gros match, Sénégal Côte d'Ivoire, donc Malik contre Daniel. Et puis demain, Maroc, Afrique du Sud et Mali, Burkina Faso. Un match très ouvert, Mali, Burkina Faso. Allez, on enchaîne sur effectivement la Ligue 1, le championnat, 19e journée. Bon, mais j'ai l'impression quand même que le Paris Saint-Germain, est-ce qu'ils ont raté le coche de faire encore un peu plus le trou? Match nul 2-2 au Parc, ils menaient 2-0.
Ils ont surtout raté leur match. Le coach, j'en sais rien, parce que moi, je suis pas trop inquiet. Mais bon, d'un autre côté, on peut pas dire non plus. C'est un petit peu délicat. C'est difficile même de parler de ce Paris Saint-Germain. Parce que quand ils ont été gagnés à Lens lors de la dernière journée, je crois, ils vont gagner à Lens, ils font cet écart. Tout le monde dit un peu que l'écart, justement, devrait pouvoir leur permettre d'arriver tranquillement et sereinement à ce match de Ligue des Champions contre la Real Sociedad, et c'est ce que fait Luis Enrique. Alors est-ce que ça va Est-ce que c'est obligatoire ou pas, j'en sais rien, mais il fait tourner, il cherche des solutions, il cherche plein de choses. Et ben, peut-être que aussi les joueurs sont déjà un petit peu, commencent à être prêts pour ce match. Et puis, c'est vrai que c'est assez indigne quand même d'eux de faire la deuxième période qu'ils, ouais. qu'ils font hier soir contre, contre Brest, qui est d'ailleurs, ceci dit, qui est quand même...
Très belle équipe.
Pas... Ah ouais, ouais. Il faut pas dénigrer ce qu'ils font et négliger la force de cette équipe qui a fait un super super jeu, qui a pas du tout qui a pas du tout fermé le jeu et tout. Non, c'est avec des non, c'est une très très belle équipe Brest. Et quand même, ils sont troisième.
Oui.
Même si Nice aussi avait fait un très bon match.
Oui, alors on va en parler justement. On va en parler, hein, on va rappeler les résultats.
C'est quand même autre chose ouais. dans le jeu de voir jouer Brest que de voir jouer,
absolument.
Que de voir jouer Nice. Hein.
Hein, Nice qui avait battu Metz 1-0, alors que la veille, donc Rennes avait un peu plus enfoncé encore Lyon en s'imposant à Lyon 3-2. Marseille, Monaco qui donne très souvent des beaux matchs de partout. Match nul entre Montpellier et Lille 0-0. Et donc ce PSG. Et Brest qui a clos cette 19e journée de partout. On va quand même rappeler que ça a été la journée des matchs nuls, hein, parce qu'il y a eu un 3-3 entre Lorient et Le Havre, un match nul 1-1 entre Clermont et Strasbourg, et un 0-0 entre Reims et Chartres, Reims et Nantes, 0-0. A noter que Lens est allé gagner à Strasbourg,
et à Montpellier aussi,
à Toulouse, 2-0. Oui, oui, on l'a dit, ils ont fait 0-0 devant Lille. Donc Paris Saint-Germain en tête avec 44 points, devant Nice 2e 38, 3e Brest 34, on en parlait. 4e aussi Monaco 34 et 5e Lille 32. Et en bas de tableau, bah, c'est toujours aussi serré et compact. Montpellier 12e avec Nantes 19 points, 14e Toulouse 17 points, 15e Metz et Lyon 16 points, 17e Clermont 15 points et 18e Lorient 13 points. Pierre, vous suivez le foot ?
Tout à fait.
Oui, et alors ?
Vous
avez une équipe de cœur, non ?
Non,
c'est non, pas vous n'êtes pas non, supporter. C'est plus l'historien et le journaliste qui regarde. Ouais,
non, je regarde le foot. C'est vrai que là, avec toutes les chaînes, on commence par être un petit peu abreuvé.
Ouais.
Et que ce week-end, il y a eu un moment où j'ai un peu décroché.
Ouais. Mais ça vous plaît, la Ligue 1 Moyen.
Moyen, parce que... Alors, il y a le PSG, oui, les autres. Oui,
au-dessus du lot. Hein.
Le PSG, bon, moi, je regarde toujours parce qu'il peut y se passer des choses, quoi. Ouais. Il y a Mbappé, on paye pour voir jouer. Sinon, bah, le niveau n'est pas... Je préfère regarder la Premier League en Angleterre.
Ouais, comme beaucoup.
Parce que c'est pas que le niveau soit faible en Ligue 1, c'est qu'il est trop défensif. Et c'est vrai qu'une équipe comme Brest sort de toute leur complètement.
Oui, c'est une belle équipe.
Très agréable à regarder. Et en se souvenant qu'il y a un an, il était au bord de la relégation.
Ouais. C'est ça la beauté du foot.
C'est ça, oui, c'est ça.
Bon, Stéphane, il y avait deux journées de Ligue 2 cette semaine. Hein. La 21e, nul entre Grenoble et Auxerre, un partout. Angers qui avait battu Quevilly-Rouen 3-2, ce qui lui avait permis de reprendre la tête. Et puis Machul entre Laval et PFC 1-1. Et entre Guingamp et Rodez 3 partout. Et puis dans cette journée de samedi, bah, Amiens est allé gagner à Saint-Etienne 1-0. Auxerre-Guingamp, Machul 1 partout. Quevilly-Rouen, Machul aussi 1 partout face à Grenoble. Défaite de Rodez à domicile devant Laval 2-1. Et défaite du Paris FC devant Dunkerque 2-1. Ce soir, il y a Bordeaux-Angers. Donc pour l'instant, la Ligue 2, ça reste toujours aussi serré. Auxerre-Angers en tête à 43 points. 3e Laval 39, 4e Grenoble 37, Rodez et le Paris FC sont en milieu de tableau avec 31 points, 11e. Et puis en bas de tableau, bah, 17e Annecy et Dunkerque avec 20 points, 19e Quevilly-Rouen 18 points et 20e et dernier Valenciennes 14 points.
Ouais, tout à fait, avec cette équipe de Valenciennes. Et donc on a appris, je crois que c'est aujourd'hui, hein, le énième licenciement joueur, à savoir Régis Bouard qui a perdu son poste à Bastia, à la suite de la défaite à Valenciennes. Et oui, non, c'est très très serré. Et même moi, je pense que que Valenciennes a très très peu de chance maintenant. Bon, ils ont aussi continué sur cette voie. Ils ont mis, je pense que Valenciennes et Dunkerque, c'est quasiment plié. C'est quoi les autres? Il y a Annecy aussi qui est.
Oui, Annecy qui est 17e, hein, qui est en survie. Ouais, hein. C'est mal engagé pour Annecy. Surtout que 4 clubs descendent cette année. Hein.
Les 4 derniers ans, 17, 18, 19, 20, ouais. Moi, je pense qu'il y a Annecy, Dunkerque, Valenciennes et l'autre équipe, c'est quoi la quatrième?
Bah, c'est Quevilly. Ouais.
Bon, je pense que les quatre descentes, elles sont là. Hein. Bon, à mon avis, elles sont là, les quatre descentes. Ouais. Mais bon, ça, en tout cas, se battre jusqu'au bout. Hein. Faut pas leur vendre le résultat dès maintenant. Il reste quand même encore, je crois, 49 points à distribuer. Donc, on ne sait jamais ce qui peut... arriver, mais c'est où, donc ça, ça va être chaud. Et puis pour devant, pour en haut, c'est pareil. Hein. Je regardais Rodez, par exemple, s'ils battaient Laval, ils étaient cinquième, donc barragiste quasiment au soir. Bon, et finalement, c'est pareil, c'est des matchs de fou. On a l'impression que les gens, ils sont. C'est à la CAD qui imprègne les championnats de France. Ils prennent un but, je crois, à la 93e ou 94e. Avec cette équipe de Laval, qui a subi, mais qui finalement marque un but, encore un but sur corner. Donc, il faudra peut-être aussi prendre en compte cette équipe de Laval. Non, mais le championnat, il est passionnant.
Hein. Oui, en Ligue 2, oui.
Il est vraiment passionnant. Ouais. Hein. Franchement, il est passionnant.
Allez, un petit mot de national, parce que le Restart ne jouera que le 27 février contre le Gaul FC. Hein. Versailles a été battu par Martigues 1-0. Le Restart toujours en tête avec 39 points, devant Martigues 2e 32, 3e Niort 31. Versailles est 12e seulement avec 21 points sur 18 clubs. Martigues, c'est dans l'environnement de Marseille. C'est un club qui peut peut-être leur faire une petite santé sur le foot.
Ouais, c'est un club qui est difficile à cerner, ouais, quand même, oui. Quoi, qui était à deux doigts de, c'est ouais. La saison dernière, je crois qu'il était à deux doigts de monter à une petite dizaine de matchs de la fin. On les voyait bien partir en Ligue 2, et puis se sont un peu écroulés, mm-hmm. Et puis ils font un peu des hauts et des bas, ouais. Là, ouais. Ça va être très dur cette saison, hein, puisqu'il n'y a que deux montées, hein, qu'on passe à. Mais bon, puisque la Ligue 2 passe à 18 clubs. Donc ça va être dur. Maintenant, ils peuvent en profiter. C'est des clubs, c'est un peu comme le Paris FC, c'est un peu comme des clubs comme ça, dans l'environnement, ou la même ville, donc pour le Paris FC, bien sûr, ou voisin. Ils peuvent profiter de ça, mais il n'y a pas beaucoup, quoi. Selon moi, ce que je regrette un petit peu, moi, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a quasiment pas de passerelle quand on regarde entre les différents clubs comme ça, de régionaux. Du Paris Saint-Germain au Paris FC, par exemple, il n'y a quasiment pas de passerelle, quoi. Alors, peut-être parce que le Paris Saint-Germain a des joueurs, mais c'est quand même étonnant de ne pas voir des jeunes parisiens. Je pense à des joueurs comme Ethan Mbappé, par exemple, comme le petit jeune qu'on a vu... très bon là contre Orléans, je crois que c'est contre Orléans.
Il a joué Ethan Mbappé l'autre jour, hein. Il est rentré.
Il est rentré déjà deux ou trois fois.
Ouais, ouais.
Mais c'est des joueurs quand même, c'est juste à côté pour être prêté au club, voisin en Ligue 2, quoi. Puis jouer pratiquement, je pense qu'il pourrait jouer beaucoup, beaucoup plus, quoi. Donc moi, je trouve ça un peu regrettable, mais pareil pour Martigues. Est-ce que vous voyez des joueurs de Marseille, de l'OM prêter Martigues? Non, il n'y en a quasiment pas, quoi. Donc je trouve ça un peu dommage, quoi.
Alors, donc en National 2, bon, bah, l'Atlético Trélissac, le match a été reporté. Pour l'instant, l'Atlético reste 7e à 19 points, à 6 points du leader, donc les Herbiers avec deux matchs en moins. Et puis chez les féminines, pas de journée de championnat. Par contre, on en avait parlé, semaine européenne, avec Lyon qui s'est imposé à Saint-Polten 7-0. Lyon en tête avec 13 points. Les Lyonnais, les Lyonnaises déjà qualifiées avant la venue du Slavia de Prague cette semaine. Le Paris Saint-Germain, qui n'avait pas très bien commencé, eh bien, s'est refait une santé. Ils se sont imposés devant l'Ajax d'Amsterdam au Parc des Princes 3-1. Le PSG en tête avec 9 points avant son déplacement face au Bayern de Munich demain. Et puis le Paris FC qui peut aussi y croire. Paris FC qui a concédé donc le nul au BK Hakem 0-0. Ils sont 3e à 7 points et ils reçoivent donc demain à Charletti à 18h45 Chelsea.
Et voilà, c'est une super... J'espère, on sait que les places sont pour la majorité gratuites, mais qu'il faut, n'oubliez pas, si vous nous écoutez, vous voulez y aller, il faut vraiment s'enregistrer avant par internet. Hein. On ne peut pas se pointer à l'entrée du stade et rentrer. Hein. Ouais. Il faut prendre une... comme si on prenait une place.
Il faut bien le dire.
Il faut bien assez, parce que c'est un match qui mérite vraiment, vraiment, vraiment du public. C'est ce que fait le Paris FC, c'est exceptionnel. ça va être très très dur quand même contre pour les filles du Paris FC d'aller faire de battre Chelsea,
mais qui est en tête de sa poule.
Tout à fait. Donc ça va être très 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 compliqué, mais pourquoi pas quoi. Et puis c'est un exploit, je pense qu'elles qui sont ils peuvent être en mesure de le faire, et il faut vraiment qu'il y ait du soutien, du gros soutien derrière. Puis coup de chapeau effectivement aux Parisiennes, hein, qui deux défaites, elles ont commencé par deux défaites, je crois, à l'extérieur, je ne sais plus où c'était, mais à domicile c'était contre le Bayern, qui était venu gagner, je crois, à Paris. C'était au Parc le match peut-être. Et donc elles se sont bien non seulement remis dans la course, mais en plus actuellement elles sont même premières de leur groupe, donc ça va mieux pour Paris, même en championnat comme en Coupe de France. Ça va beaucoup mieux pour le Paris Saint-Germain, qui a commencé difficilement. C'est peut-être dû aussi au retour en forme de Marie-Antoinette Katoto, qui est restée un an sans jouer et qui bien sûr a besoin de temps pour retrouver un niveau à peu près correct quoi. Et elle retrouve ce niveau, donc tant mieux pour les équipes. Alors quant à Lyon, je pense que Lyon
tout va bien pour l'instant, tout
est armé pour gagner encore cette édition de la Ligue des Champions.
Voilà, donc on avait commencé avec le Bayern et Barcelone, on va finir avec eux, Stéphane. Le Bayern, qui se replace.
Comment
le Bayern qui se replace, et puis Barcelone,
qui
condamne son entraîneur sa vie.
Ouais, mais je pense qu'il il est super intelligent, parce qu'il a dit ça pour éviter une pression qui, on est bien placé pour le savoir, nous, dans l'émission Vaut du foot, où il y a certains détracteurs professionnel de sa vie, de Xavi, qui il a donc, je pense, libéré de la pression en disant que de toute façon il allait partir, mais Barcelone va quand même très très mal quoi. Ils ont perdu lamentablement ce week-end, ils sont à 10 points du Real Madrid qui est deuxième, mais derrière Gérone qui a un point plus, donc à 11 points de Gérone, mais ils ont le Real comme le Barça un match en moins, donc on peut penser que la logique serait que le Real prendrait la tête, mais en tout cas il y a 10 points avec le Real Madrid, 11 avec Gérone, ils sont même plus 3e, ils ont vu l'Atlético quoi. Pour l'instant c'est la différence de but, et je crois que l'Atlético a un match de plus, mais ils ont vu aussi l'Atlético leur passer devant, donc même mentalement ça peut être compliqué hein. Ça appuie. Puis bon, on parlait du Bayern qui a effectivement gagné, et Bayern Leverkusen, c'est surtout plus que le Bayern Munich qui gagne, c'est pas trop étonnant, mais c'est ce qu'on peut un peu craindre, c'est que petit à petit le Bayern Leverkusen commence à perdre des points ici ou là, et puis perdre. Maintenant il y a des choses importantes quand même. Le Bayern n'est pas épargné par les blessures. Ouais. Il y a Kingsley Coman qui s'est blessé. Alors ça a l'air quand même assez sérieux. Il y a Upamecano qui est blessé aussi. Alors lui c'est une quinzaine de jours encore, je pense, ou une vingtaine de jours encore. Mais bon, c'est des joueurs qui peuvent effectivement qui peuvent aussi manquer. Et puis ils viennent quand même de prendre Sacha Boué là, le jeune espoir français là. Donc pour se renforcer, moi je me fais pas trop de soucis pour le Bayern. Ça va être quand même dur de revenir sur les Verchel, mais bon, donc par contre le Barça, je m'en fais plus du souci sur le Barça, et qu'à ce rythme là on peut même se demander s'ils vont arriver à être européens quoi. Enfin, en Ligue des Champions en tout cas.
Très bien Stéphane, merci, je sais que c'est le bouclage, donc merci pour le quotidien du sport, à la semaine prochaine hein, puis au bout du foot, donc c'est LAG qui prend le relais tout à l'heure à partir de 20h30, voilà, merci en tout cas.
Allez, bonne soirée à toutes.
Rendez-vous la semaine prochaine, voilà, merci. Voilà. Bon Pierre, c'est facile de joindre les sportifs quand vous faites des livres consacrés à des grands. On sait que pour le foot, il y a Zidane qui est en tête sur votre bouquin, Rive pour le rugby.
Oui, c'est pas facile de les joindre, mais c'est pas forcément nécessaire.
Oui.
C'est pas forcément nécessaire parce que.
Comment on peut parler d'eux alors?
On a vu les matchs, on connaît leur vie, on s'enseigne. On fait pas mal de choses.
Oui.
On peut les joindre, mais...
Il y a des gens qui les connaissent bien, donc on peut peut-être les joindre.
Oui, on peut les joindre. Ben, par exemple, celui que j'ai joint, c'est pas un sportif, mais c'est Giroud.
Oui,
Giroud
oui, oui.
qui a fait la préface.
Grande personnalité,
oui. Grande personnalité. C'est ça a été un grand honneur qu'il fasse la préface de mon bouquin. On a eu un échange très cordial.
Oui, parce que vous avez créé, on l'a dit, des bouquins sur le foot, sur le vélo aussi, c'était Pouille d'Or. Hein.
Sur le vélo, c'était Pouille d'Or.
Et puis Jean-Pierre Yves avec le préface d'un monsieur qu'on a eu. Qu'on a eu l'occasion d'interviewer pendant le mondial. Sur le rugby, grand monsieur Max Guazzini.
Oui, Max il a accepté de faire la préface aussi de mon bouquin. C'était un bon moment aussi.
Bon, comment vous allez le vivre donc maintenant cet été sportif qui arrive hein, on parlait de foot avec l'Euro, bon, il va y avoir le Tour de France, il va y avoir les Jeux Olympiques et Paralympiques.
Et l'été va être chargé. L'été va être chargé. Ça va commencer par l'Euro. L'Euro, en général, c'est une bonne compétition. C'est agréable à suivre.
Il y a des beaux matchs. Hein.
Il y a des beaux matchs. Il y a des beaux matchs. Après le Tour de France, bon, c'est le Tour de France, c'est toujours magique. Pour la première fois depuis de toute l'histoire, il ne part pas de Paris. Ça, c'est jamais arrivé, c'est la première fois.
Oui,
et puis les Jeux Olympiques. Ben, les Jeux Olympiques, je vais aller voir quelques compétitions sur quelques billets que j'ai réussi à acheter au dernier moment, mais bon, j'attends avec quand même de l'espoir. De l'espoir, au-delà des performances, c'est la cinquième place du bilan des nations de Macron, on s'en fout un petit peu. Enfin, moi, je m'en fous, en tout cas, je m'en fous complètement. Ouais. Mais voir des belles histoires, voir des belles images, c'est voir une ville qui peut-être va se reconnaître elle-même au cœur des Jeux, comme Londres l'avait fait en 2012, quand même avec de l'espoir.
Très bien, bah vous viendrez nous en reparler. Hein.
Mais d'accord, avec grand plaisir.
Voilà. Merci en tout cas d'avoir été notre invité principal une semaine après l'arbitre Bruno Derien. Merci Laura.
Hein. Merci.
À la semaine prochaine. Hein, tu auras encore pas mal de boulot, mais l'actu va se baisser un peu, bien qu'il y a le rugby qui commence quand même, hein, le tournoi de 6 nations. Vanessa, merci. À la semaine prochaine. Voilà, je vais remercier Jason et puis donc Léonard qui ont été nouvelle fois brillamment aux manettes ce soir. Et puis pour faire la liaison avec Au bout du foot, eh ben on va terminer avec l'hymne de la CAN. Bonne soirée à toutes et à tous et rendez-vous la semaine prochaine. Avec plaisir. Salut, bye bye.
قوة في التحدي الأمل في عيون
Africa.